Donc je vous propose de commencer parce qu'on a qu'une petite heure en fait pour chercher encore donc ce que c'est que quelle éternité nous est promise, nous est donnée, nous est annoncée. On avait vu la dernière fois le morceau de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Là je vous propose donc un extrait de la deuxième lettre aux Corinthiens, un extrait de la lettre aux Éphésiens et puis au verso de la feuille. Donc un extrait des extraits de la première lettre de Jean. Encore une fois, ça sera assez contrasté finalement, cette compréhension de l'éternité qui nous est donnée, qui nous est promise, qui est vécue, qui est attendue. C'est toujours un petit peu quelque chose comme ça. Et ça touche aussi au statut de notre existence en ce monde. Quelles sont ses qualités, ses défauts, quelles sont ses limites En quoi est-ce que cette vie nouvelle, cette résurrection, cette vie éternelle est reçue, est vécue dans ce temps présent ou seulement attendue pour la vie future? Et puis comment est-ce que ça marche finalement? Comment est-ce qu'on la reçoit? Alors ça touche des questions finalement qui sont assez, assez vastes dans la théologie chrétienne et parfois quand on redécouvre avec un œil neuf ces textes du Nouveau Testament, et de l'Ancien, puisqu'on était parti avec les textes de l'Ancien, eh bien ça permet d'avoir un nouveau regard sur finalement ce que l'on croit être la théologie chrétienne, parce qu'on a des idées, souvent des idées reçues, de ce que l'on devrait croire peut-être selon la bonne théologie. En fait, c'est souvent plus compliqué que ça, et c'est souvent peut-être assez différent finalement, parce que depuis l'époque de ces textes, il y a eu 2000 ans de christianisme pratiquement. Et ces 2000 ans de christianisme, il y a bien sûr un approfondissement de ces textes. Il y a aussi, la révélation ne s'est pas arrêtée à ces textes-là. Il y a aussi, on dit, l'esprit qui souffle. Il y a aussi la science qui progresse, c'est-à-dire les recherches en archéologie biblique, en connaissance de l'Ancien Testament, de ses langues, du Nouveau, des réflexions aussi sur ce qui fait la nature de l'homme, sur l'inconscient, sur son développement. Il y a aussi un enrichissement par rapport à ça. Et puis dans la théologie, dans ces 2000 siècles de théologie, il y a aussi d'autres choses qui apparaissent. Il y a d'autres influences que les influences bibliques, des influences de philosophie, de théologie grecque, peut-être d'autres courants aussi. Et puis bien sûr, bien des développements théologiques qui sont dus à d'autres raisons que des simples raisons spirituelles, qui sont dues à des questions... peut-être de politique, de pouvoir, de je ne sais pas quoi. Donc, retour sur ces textes bibliques, et à mon avis, c'est quelque chose qui nous concerne directement, cette histoire de vie éternelle, savoir qu'est-ce qui est vraiment vaut la peine d'être vécu dans notre existence, ce qui donne sens, ce qui donne espérance, c'est assez profond. Donc, la deuxième lettre aux Corinthiens. Alors j'ai souligné des phrases qui sont peut-être plus en rapport avec donc c'est la vie qui est donnée. Alors on va la lire, hein, cet extrait. On va lire cet extrait. Il y a deux dimensions, hein, dans l'être humain, une dimension mortelle, une dimension éternelle. Alors c'est curieux, hein, ce langage parfois est un peu étonnant, ce langage de l'époque. Il y a tout un tas de jeux d'images qui est donné, des images qui sont un peu contradictoires. Est-ce que cette vie nouvelle, elle est donnée à l'intérieur? Est-ce qu'elle est revêtue de l'extérieur? Il y a différents jeux d'images, donc un vase d'argile avec une lumière dedans, un vase rempli de lumière. C'est quand même un peu déjà un peu surréaliste comme image, hein. L'histoire de la mort et de la vie du Christ qui est en nous par nous. Enfin, voilà. L'homme extérieur, l'homme intérieur, donc deux dimensions, je dirais, de la vie humaine. Il y a une image comme une tente dans laquelle nous sommes, et puis une maison peut-être en marbre dans la vie future. ou alors un corps qui est revêtu, revêtu de quelque chose de céleste. Alors, vous voyez, il y a tout un jeu d'images pour essayer de dire, bon, quelle est la réalité de notre vie en ce monde? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une autre vie, finalement? Vie soit présente déjà, soit future. Ça aussi, c'est discuté dans l'histoire. Alors, bon, je vais commencer un peu à lire ça. Donc, Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. Et nous avons ce trésor dans des vases de terre, des vases d'argile, on dit souvent, ce qui est plus poétique, afin que cette puissance extraordinaire, puissance en fait hyperbolique, hein, dans le grec, hein, c'est le mot hyperbole, soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Donc vous voyez, dès le départ, là, il y a une relation avec le créateur de la Genèse, finalement. Et déjà, ça dit quelque chose du salut, dans un sens, et ça dit aussi, c'est aussi une exégèse, une interprétation du livre de la Genèse comme étant une histoire qui est à l'œuvre dans notre présent, finalement. Hein? La création de la lumière dans les ténèbres, c'est la première chose qui est créée dans la Genèse au premier jour. Et cette lumière, c'est une lumière spirituelle parce que c'est créé avant le soleil et la lune. Et donc ça dit aussi quelque chose pour notre existence présente, notre espérance. Voilà. Alors, il n'y a pas marqué « recevez cette lumière », il y a marqué « nous avons, hein, nous l'avons, nous portons ce trésor dans des vases d'argile ». Et donc ça, c'est intéressant aussi de noter que c'est déjà de l'accompli dans un sens. Hein. On a reçu cette lumière. Ça, on peut retrouver des parallèles dans l'Évangile, mais on verra l'Évangile la semaine prochaine, ce qu'on peut voir dans les Évangiles de cette vie éternelle. Mais là, on a aussi quelque chose qu'on retrouve dans l'Évangile quand Jésus nous dit « Vous êtes la lumière du monde, avoir la lumière en soi. » Voilà. Déjà, là, il y a une idée du salut comme un acte de création de Dieu qui se poursuit. Et puis il y a une idée de notre être. Peut-être qu'on pourrait y voir quand même un peu une anthropologie un peu plus grecque, si vous voulez, dans certains philosophes grecs. Il faudrait demander aux spécialistes en philosophie, mais il y a certaines fois, il y a une notion que voilà, il y a une âme qui tombe dans la boue du sol, et finalement nous sommes cet être debout avec qui a reçu une part, un éclat de la divinité. Ici, vous voyez, l'histoire du vase de terre, c'est un peu méprisant pour notre corps dans un sens, sauf que bon, un vase c'est quand même utile, mais un vase de terre c'est quand même un peu quotidien, un peu vulgaire, au sens pas vulgaire grossier, pas grossier, pas graveleux. Mais... Bonjour monsieur. Bonjour. Quatrième étage pour la livraison. Oui.
D'accord. Merci.
Merci. Donc c'est un peu méprisant pour le corps. Hein. Mais en même temps, c'est utile le corps. Mais... Donc c'est pas une chute.
Oui. Vases grecs.
Quoi? C'est, oui, ces vases grecs étaient en argile, effectivement. Hein, oui.
C'est quelque chose artistique aussi.
Ah oui, c'était artistique aussi. Donc c'est pas si vil que ça. Ouais. Oui, mais il y a des, comme on voit effectivement au musée d'Athènes, des vases d'argile qui sont des vraies œuvres d'art. C'est pas simplement la poterie pour la cuisine. C'est un peu, oui. Oui, alors
est-ce que justement on pourrait supposer que c'est dû à la culture juive de Paul?
Peut-être que ça peut venir de la culture juive de Paul, peut-être de la culture grecque, mais je pense que la brisure des vases et puis la réparation du monde, c'est plus de la Kabbale, c'est plus peut-être 17e, 18e que vraiment antique. C'est l'idée dans la théologie juive de la Kabbale que la lumière divine était si forte et si puissante que le monde a un peu éclaté devant une telle irruption de puissance hyperbolique. Il peut y avoir quelque chose de là, c'est-à-dire que même si c'est exprimé par les kabbalistes au 17e, 18e, peut-être qu'il y avait sans doute des substrats de judaïsme antique aussi dedans, ils ne l'ont pas inventé au 17e. Il peut y avoir de ça aussi, c'est vrai. Là, il n'y a pas de brisure du vase, mais il y a l'idée quand même d'une genèse, quoi. La lumière est quand même contenue comme l'âme dans le corps. Et c'est là qu'un peu ce dualisme peut faire un peu grec quand même, non ? Un peu grec. Bien que dans la Genèse, il y a quand même le corps qui est pétri d'argile et le souffle de Dieu qui est donné dedans. Donc il y a aussi quelque chose qui est de cette nature aussi. Il ne faut pas non plus opposer toujours une anthropologie grecque qui serait celle de l'âme et du corps, dualisme, et puis une vision plus unifiée de la vie humaine dans la théologie biblique, l'anthropologie biblique. Il y a aussi ce point commun, je pense, en partie. Hein. Mais,
c'est dangereux quand même de dire que le dualisme âme-corps, c'est une chose grecque. Pour Aristote, par exemple, même les plantes ont des âmes. Rien que le principe naturel d'harmonie entre les parts du corps. Alors, ce ne sont pas tous les Grecs.
C'est pas tous les Grecs. C'est peut-être plus Plotin ou...
Oui, Plotin.
Oui, plutôt. Mais ça a beaucoup influencé cette vision plotinienne, finalement, de la personne humaine. Ça a beaucoup influencé la théologie chrétienne antique, en fait.
Ouais.
Peut-être pas encore tout à fait à cette époque-là, mais...
Non, parce que Plotin n'est pas né.
C'est un problème pour le citer à cette époque-là. Mais... Bonjour, David. Mais peut-être plus, quand même... Peut-être plus... À partir de Saint-Augustin, c'est devenu plus important. Et peut-être qu'on en voit plus les traces dans le dénigrement, enfin le dénigrement, dans la relativisation, les soupçons sur par exemple, sur les plaisirs du corps, sur le mariage, la fécondité. Voilà, en disant que la virginité est au-dessus dans la moralité, que la vie en matrimoniale est féconde. Ça, c'est quand on voit apparaître ce genre de choses, à mon avis, c'est déjà moins biblique et un peu plus cette conception de l'être humain, donc de la philosophie grecque tardive, peut-être, je ne sais pas comment on peut dire, non, de Plotin ou...
C'est une grande question.
C'est une grande question. Bon, on pourrait demander aux spécialistes en...
Mais
en philosophie.
Aux Essènes aussi, la secte juive.
Les
Esséniens.
Les Esséniens, oui.
Alors, c'est pas qu'ils sont tout doués à Plotin.
Oui, c'est vrai qu'il y avait les Esséniens, qu'on connaît beaucoup mieux depuis, effectivement, Qumran, les découvertes de Qumran, avec ces sortes de mouvements monastiques, finalement, Alors, on en a quelques traces aussi avec Saint Jean-Baptiste, qui était donc naziréen, on dit, donc était une sorte d'ermite, de moine ermite, dans le désert. C'était des courants qui pouvaient exister aussi dans le judaïsme, c'est vrai. Enfin bon, là, si vous voulez, la lumière, quand même... Dans la Genèse, c'est une création de Dieu, et là, je pense que c'est un texte qui parle quand même de création de l'humain, et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui est dit de du salut qui est donné en Christ, finalement. Alors ensuite, bon, ça exprime la difficulté de la vie en ce monde. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, dans l'impasse, mais pas complètement dans l'impasse, dans l'aporie, diraient les... Voilà, les les philosophes, persécutés mais non abandonnés, abattus mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Donc là, quand même, il y a la vie difficile en ce monde, mais toujours cette espérance d'un reste, finalement, de vie. Ça, c'est quelque chose qui est très biblique aussi, avec les prophètes, avec le petit reste. Il y a l'idée de la mort et de la vie du Christ. Ça a été une grande énigme, à mon avis, pour les premiers disciples du Christ. Et là, on n'en est pas loin, quand même, dans ces épîtres. Comment est-ce que le Messie peut être crucifié, peut avoir connaître cet échec? Alors, ça existait déjà, ce questionnement autour d'Ésaïe 53 en particulier, le serviteur souffrant. Mais là, c'est une question ici. Comment est-ce qu'on peut être à la fois béni, aimé par Dieu et souffrir en ce monde? Eh bien, c'est l'idée quand même d'un Dieu qui nous garde dans les difficultés de cette existence. Au moins, il y a quelque chose qui reste de la profondeur de notre être et qui manifeste cette victoire du Christ. Alors ensuite, on va voir qu'il y a même une valorisation un peu de cette souffrance, hein, comme étant en même temps peut-être... dû à la nature même de ce vase d'argile qui est fragile, qui est souffrant, qui est pétri, je dirais, à la fois de lumière et de chaos, finalement, de fragilité et de cette force extraordinaire de Dieu. Donc une réalité en ce monde qui est mitigée, et nous le savons tous, et en même temps, c'est la souffrance qui est due à la nature même de notre existence en ce monde, qui est compliquée, qui est complexe, mais en même temps qui est aussi dû à l'effort que nous faisons pour travailler en ce monde. Oui. Je ne sais pas comment vous voyez cela. Ça dit en même temps la force de Dieu, hein, qui fait que jamais, qui va garder chacun des siens, mais en même temps la faiblesse de Dieu, la douceur de Dieu qui fait ce qu'il peut finalement. Qui ne peut pas empêcher que son Messie soit crucifié, qui ne peut pas empêcher que dans ce monde nous ayons des difficultés. Et ça, cette force et cette faiblesse de Dieu, on la retrouve dans bien des passages, hein, de l'Ancien Testament déjà, dans les psaumes par exemple. On avait lu la dernière fois, il y a deux semaines, le psaume 23, le psaume 121, qui disent à la fois cette force et cette faiblesse de Dieu. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut qu'on peut saisir effectivement pour comprendre nos difficultés de vie en ce monde et les malheurs qui nous arrivent. Pas forcément comme dû à la volonté de Dieu, mais au contraire, là, Dieu, voyez, il est. Je ne crois pas que Dieu soit derrière la persécution, l'écrasement, l'abattu. Non, Dieu, il est derrière le fait que même dans l'abattement, on ne soit pas complètement, perdu. Même dans la persécution, on ne soit pas complètement abandonné. Dieu est toujours cette petite, cette étincelle de vie qui reste même dans les passages les plus noirs, les plus sombres. Et puis cette promesse que, donc au verset 11 là, « Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. » Donc là c'est un peu une finalité. Lui il parle pour lui qui travaille effectivement pour la vie la conversion des personnes auxquelles il s'adresse, oui. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, c'est un extrait de psaume qui parle aussi de la souffrance en ce monde. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour ça que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Alors, on peut y voir cette certitude que Dieu Bon, il y a une valorisation là de Dieu hein, comme acteur, et pas de Jésus comme s'étant ressuscité lui-même. Ça aussi, pour la théologie moderne, ça peut être un recentrage, peut-être, hein, comme Dieu, comme acteur du salut en Jésus-Christ. Hein. Mais il peut y avoir une certaine valorisation là de la souffrance en ce monde, dans un sens que la souffrance est utile. Je ne crois pas que ce soit voulu par Dieu. Je ne crois pas, franchement, que ce soit le cas. C'est plus... il y a de la souffrance en ce monde et il y a une façon de la vivre avec le Christ qui peut faire que il en sorte un plus grand bien, peut-être. Ou alors, en tout cas, il y a une façon de la vivre sans perdre l'espérance et qui nous fait garder le meilleur. Je ne sais pas comment vous voyez les choses à travers ce texte. Il y a toujours le risque que de justifier la souffrance.
Oui, mais la souffrance fait partie de la vie quand même.
Ça oui, ça
partie.
J'aime mieux ça, oui. C'est comme ça que je lisais le début.
J'ai revu plutôt un film qui s'appelle « Se souvenir des belles choses ». Et bon, c'est l'histoire d'un garçon, ça se passe dans un asile psychiatrique, quelque chose, enfin dans une maison comme ça, et la fille perd la mémoire de plus en plus, elle s'amourage d'un garçon, bref. Et bon, après, le garçon est un peu désespéré, et le médecin lui montre quelqu'un dans le parc, complètement immobile, inerte. Et il lui dit, voilà, il a eu un accident, il ne ressent plus rien, ni le mal, ni le bien, enfin, ni la douleur, ni rien du tout, etc. Et c'est là, le médecin dit, voilà, souffrir, c'est la vie. Voilà,
ah oui.
Quoi.
Oui,
ça fait partie de la vie.
Ça fait partie de la vie, oui.
Si on ne ressent plus rien, c'est rien du tout, c'est la mort, en fait.
Oui. Oui, ça, c'est vrai que c'est déjà une leçon intéressante. Hein. Mais, cela dit, quelle est la volonté de Dieu ? À mon avis, c'est quand même... La souffrance ne fait pas partie de la volonté de Dieu.
Oui, bien sûr.
Donc, c'est... Comment dire ? Ça va avec le lot du truc. Cette existence qui est mêlée, qui mélange à la fois le chaos, le chaos et l'esprit de Dieu... qui mêle à la fois les lumières dans les ténèbres, mais Dieu est source de lumière, pas des ténèbres qui sont préexistantes dans un sens. Hein. Mais là, si vous voulez, il y a léger, je vois frémir un léger risque, vous voyez, au verset 15, par exemple, tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder les actions de grâce, ou l'idée que... car nous vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Alors, est-ce que ce « à cause », c'est parce que Jésus veut, pour être identifié comme Jésus, avec Jésus, c'est intéressant de souffrir, de bien souffrir. C'est ce qu'on peut voir éventuellement un peu après, aussi, à condition, au verset 17, vous voyez nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Quelque part, il y a marqué après, à condition qu'on ait bien accepté de souffrir avec lui. Je ne crois pas que ce soit, si vous voulez, l'idée d'une souffrance rédemptrice, purificatrice, etc. Je ne crois pas. C'est vrai que ça, on a pu l'entendre quand même. Hein.
C'était une dérive, ça.
Ça a été une dérive. Mon père était cardiologue et il était à un moment, il était donc cardiologue à l'hôpital Brousset et il y avait, c'était un peu fusionné avec l'hôpital Saint-Joseph qui est à côté. Et il a vu des bonnes sœurs. C'est plus le cas maintenant dans la théologie catholique, hein, mais des bonnes sœurs qui jetaient à la poubelle les ampoules de morphine. Pour que le médecin, le patient puisse souffrir et offrir sa souffrance au Christ, si vous voulez. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas du tout dans la théologie catholique.
Oui, c'est plus possible.
Ça. C'est plus possible. Mais on a pu l'entendre.
Merci, c'est très bon.
Merci pour la parole. On a pu l'entendre. Et c'est vrai que je crois que ça, on ne peut plus le laisser dire, si vous voulez. Je crois que, comme vous le disiez, la souffrance, il existe une souffrance qui fait partie de la vie en ce monde. Dieu n'est jamais du côté de la souffrance. il est toujours celui qui va nous aider à lutter contre la souffrance, à la positiver, à en faire quelque chose, puisqu'elle est là, à en faire quelque chose. Et moi, je relis ça plus, ces passages, comme une promesse que, de toute façon, le combat n'est pas perdu, puisque Dieu nous garde de toute façon. Et puis qu'il y a une façon de traverser cette souffrance d'une manière christique.
Oui. Non ? Oui, c'est surtout ça qui est un peu, à mon avis, c'est cette traversée de la souffrance à la manière du Christ qui est en fait le fond du message. C'est pas la justification de la souffrance en elle-même, parce qu'en fait, Paul parle de l'expérience qu'il est en train de faire, de sa situation historique et des persécutions subies. Mais il faut bien donner un sens à tous ces événements. Et je suis d'accord avec vous qu'il s'agit plutôt de voir comment traverser la souffrance de manière christique.
De manière christique, c'est-à-dire de la rendre, de voir la finalité et de la transformer, de la mobiliser, tant qu'à faire qu'elle soit là, de la mobiliser en vue de cette finalité, en vue de la vie, en vue du bonheur, en vue de soulager les souffrances, en vue de faire que, comme le programme là, hein, que les personnes qui sont pressées ne soient pas écrasées, que les personnes qui sont dans l'impasse trouvent une faille pour sortir, les gens qui sont persécutés ne soient pas abandonnés, etc. Je crois que c'est un programme aussi qui est donné de notre action, de notre éthique en ce monde, si vous voulez. Alors il y a l'idée, moi j'aime beaucoup le verset 16, hein, même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ça c'est vrai que c'est pas faux, moi je trouve, et peut-être que l'expérience du vieillissement, quoi, ben oui, est pas inintéressante. Je veux dire, c'est, en même temps c'est pas drôle effectivement, de, par exemple moi quand t'as 40 ans
quand t'as... Oui.
Mais grâce à ça on peut avoir un regard différent. Mais on a pu extraordinairement approfondir son être. Cela dit, c'est vrai qu'il vaut quand même mieux la santé que la maladie. Donc, c'est pas pour dire, bah, écoutez, c'est merveilleux, on vieillit et donc on peut faire moins de choses. Non, mais c'est... Oui, et puis bon, il y a des, quand même... On a toujours mal quelque part, forcément. Il y a un médecin qui avait dit à une grand-mère que je connaissais... Mais ça doit être courant de dire ça, hein. C'est un peu une blague courante, hein. C'est un peu ce que vous disiez. Hein. Elle se plaignait d'avoir un mal un peu partout. Il y a le médecin qui dit, je vous arrête tout de suite. Si un matin vous vous réveillez que vous avez mal nulle part, c'est que vous êtes morte. Oui, mais... Je ne sais pas si ça encourage. Je ne sais pas si ça encourage, mais en tout cas, si vous voulez... C'est vrai que je crois qu'il y a une invitation là, à voir le temps qui passe, pas simplement comme quelque chose de négatif, mais comme une chance que notre être intérieur non seulement se renouvelle, mais s'ouvre à cette lumière, grandisse, soit dans une genèse, soit dans une croissance. Voilà. Et ça, je pense que c'est une réalité, si vous voulez, qui est tout à fait possible. Voilà.
S'ouvrir à cette réalité, c'est une grâce, certes, mais ça implique des souffrances, puisqu'il s'agit de renoncer aussi à des attachements. Quand par grâce, elle se voit mieux. Donc il y a peut-être une souffrance aussi, ça nous a accueillir sur un plan spirituel. Enfin, la souffrance de ce cheminement qui fait grandir. Pas naturel du tout. Donc il y a un arrachement à certaines conditions, non, c'est pas ça.
Il y a un changement de perspective, oui, c'est ça, c'est vrai, oui.
Oui. C'est juste, ça peut être une souffrance, mais qui est plutôt sanitaire.
Alors là, il peut y avoir une souffrance, effectivement, à ne pas simplement faire attention au visible, mais à s'ouvrir à cette qualité d'être.
L'homme intérieur.
À l'homme intérieur, voilà.
Est-ce qu'on ne peut pas rattacher la théologie de la croix ? Parce que sous-jacent, parce que de quelle souffrance on parle ?
On peut le rattacher, oui, explicitement, ça se rattache à la théologie de la croix, parce que là, même si on ne parle pas de la croix, on parle de la mort et de la vie du Christ. Et donc, quelque part, notre corps, de toute façon, est en train de mourir dès la naissance, on dit. Hein, ça aussi, pour rigoler, on dit dès le premier jour, finalement. La vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible, on dit. Hein. Mais c'est vrai, oui.
Ça, c'est une question.
Est-ce que cette souffrance est aussi peut-être attachée au péché, parce qu'on n'en a pas parlé.
Alors, là, c'est vrai qu'il n'est pas question tellement de péché là-dedans, c'est vrai. C'est plus une anthropologie de notre existence, de notre vie en ce monde, avec cette double réalité, ce corps qui diminue, qui est temporaire, et cette vie de lumière, cette vie intérieure qui se développe et qui peut grandir à l'intérieur de nous-mêmes. C'est plus cette double réalité-là. Et dans un sens, à ce moment-là, oui, le péché, mais qu'est-ce qu'on entend par péché ? C'est pas seulement la faute, finalement.
Non, pas du tout.
Le péché, là, c'est du manque d'être. C'est-à-dire, cette attente d'un développement futur. Hein. Voilà.
Moi, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ce rapport entre l'homme extérieur qui se détruit, qui est provisoire, et l'homme intérieur qui se renouvelle de jour en jour. Alors, ça reste une question, à mon avis, très difficile. Hein, c'est-à-dire, est-ce que dans l'expérience que nous avons de notre propre vie, c'est-à-dire de notre conscience, est-ce que nous faisons l'expérience de cette double dimension ? Est-ce qu'on peut identifier l'homme provisoire, mortel, avec le corps seulement, ou bien c'est une question assez difficile à mon avis. C'est-à-dire, qui est l'homme intérieur et qui est l'homme extérieur en nous ? Est-ce que c'est...
Oui, je comprends. Mais est-ce que justement dans l'expérience du vieillissement, on ne peut pas sentir ça ? Parce que bon, on voit que notre corps change et on voit notre être intérieur évoluer aussi. Et ça, on le sent quand même, non ?
Oui, puisqu'on dit, toujours, on voudrait bien être plus jeune avec tout ça et savoir tout ce qu'on sait, comme on dit.
Il y a la sagesse et il y a la finesse de compréhension de ce qui fait la qualité d'être et qualité de vie qui peut tout à fait s'approfondir au cours de l'existence. Et ça,
puis c'est aussi toute la vie qui est comme ça, parce que dès la naissance, il y a une souffrance à la naissance de toute façon. Hein. Bon,
et puis la souffrance de l'adolescent, c'est pas facile.
La puberté, c'est quand même pas une petite chose. Et puis,
c'est vrai.
Tout au long de la vie, il y a des transformations comme ça.
Donc ça, oui, mais ça, à la limite, je crois que Rian, t'as raison. C'est-à-dire, c'est se rendre conscient de ces différentes dimensions de notre être, c'est pas inintéressant, je pense. Et puis alors là, je me demande s'il n'a pas copié sur le Petit Prince. Là, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Bon, c'est comme dit le Petit Prince. Hein, voilà, il y a ce qui est important, c'est ce qui est invisible et qu'on ne peut voir que par le cœur, finalement. Donc, bien sûr, c'est plutôt Saint-Exupéry qu'à copier là-dessus, mais à mon avis, c'est quand même finement joué, parce qu'il y a là quelque chose qui est important aussi. C'est-à-dire que même dans le regard qu'on a sur l'autre à côté, d'avoir ce regard qui voit l'être invisible, l'être intérieur, les réalités, les choses... Les réalités invisibles, éternelles dans l'autre, c'est important, je pense. En particulier pour, par exemple, nos morts. Ceux que nous aimons et qui sont morts, ben, on peut encore avoir ce regard qui voit les choses invisibles et éternelles. Et c'est là que c'est plus seulement une abstraction, ça devient quelque chose de très concret pour ceux que nous aimons, en fait. Hein. Qu'ils soient vivants à côté de nous ou que le corps ne soit plus là, c'est un peu tout à fait... s'ouvrir à cet invisible. Alors là, nous savons en effet, dit Paul, que si c'est tant Donc là, l'attente, ça fait penser à Abraham un peu, hein, c'est-à-dire c'est l'idée d'une vie en ce monde comme un peu une vie de nomade, peut-être dans le désert, comme les Hébreux, ou comme... C'est assez beau comme image, je trouve, de la vie en ce monde. Hein. Donc cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice, une demeure qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Alors là, ce qui est plus délicat, c'est à mon avis la suite. Ça, je crois que c'est intéressant. Sauf qu'effectivement, ça fait penser vie présente, vie future. Vous voyez, ça peut être malheureusement trop exploité, peut-être, comme on dit, la religion est l'opium du peuple, disant, ben, vous souffrez bien en ce monde, c'est pas si grave, si vous acceptez bien de souffrir en ce monde, ben, vous avez au ciel une vie formidable dans des palais de marbre. On a pu exploiter les gens avec ça, et c'est dans un sens une promesse un peu facile, un peu abstraite, vous voyez. Il peut y avoir ce risque-là, si vous voulez. Sauf que, on a vu dans le ce qui précède, hein, il y a l'homme extérieur qui se détruit, l'être intérieur qui déjà se renouvelle, participe à la vie du Christ, reçoit cette lumière. Donc c'est plus tout à fait ça, si vous voulez. On ne peut pas extraire cette image qui n'est qu'une image, qui parle de notre vie future, certes, mais on ne peut pas extraire que cette vision, cette image-là. Pour Paul, ce n'est pas une promesse que pour la vie future. On en a déjà, comme à la fin, les arts, on a déjà les prémices, on a déjà quelque chose de cet ordre qui est à vivre maintenant, si vous voulez. Donc c'est plus simplement, il ne faut pas juste garder ce petit passage et l'interpréter en disant, bon, ben, écoutez, souffrez bien la vie en ce monde et vous aurez la vie future. Aussi, gémissons-nous dans cette tente pour revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Donc là déjà, il y a l'idée que la demeure éternelle, on la revêt dès maintenant, finalement. Vous voyez, donc c'est plus simplement la vie future, déjà. Puisqu'il faut la revêtir aujourd'hui, cette vie future. Mais il y a l'idée, non pas de se dépouiller de quelque chose, mais de nous revêtir. Donc, ça c'est intéressant aussi. Il n'y a pas l'idée qu'il faut se dépouiller de la vie présente, mais que la vie présente soit comme recouverte, ou alors remplie ou transformée, voyez, par une réalité plus vivante, plus profonde. Donc ça, c'est quand même intéressant. Voyez, il n'y a pas l'idée de... En même temps, la vie présente, elle est temporaire, donc finalement, c'est pas si grave. En même temps, on veut... il n'y a pas à l'enlever, finalement. Il y a à la nourrir, la transformer de l'intérieur, à l'habiter de l'intérieur, à avoir sa... une qualité d'être qui peut l'habiter, à la revêtir, l'envelopper, la prendre tout entière, finalement, dans une autre réalité. Mais si vous voulez, ces images, elles peinent à dire... vous voyez, chacune de ces images est un petit peu surréaliste, vous comprenez, bien sûr. Mais c'est toujours ce qu'on avait vu, par exemple, dans 1 Corinthiens 15, la dernière fois, c'est parler de la vie future comme étant dans un corps, c'est en même temps un peu une parabole, en même temps, c'est pas sans pertinence, c'est dire notre être individuel qui est gardé. Bon, ça suffit pour ce passage, qu'on passe au suivant, peut-être, à Éphésiens. Alors, Éphésiens, il y a des gens qui disent que c'est un peu moins monsieur l'apôtre Paul qui aurait écrit ça, et un peu plus des disciples de Paul qui auraient écrit ça un peu plus tard. Bon, vous savez ça, faudrait demander, enfin, je veux dire, c'est des hypothèses d'exégètes qui sont très discutables.
C'est plus à cause du style que la théologie, non ?
C'est ça, c'est-à-dire que c'est des analyses aussi assez scientifiques sur les mots, les expressions, voilà. Mais c'est quand même très paulinien, c'est vraiment une très belle épître. Peut-être que c'est effectivement un peu plus paulinien qu'écrit par Monsieur Paul. Bon, c'est pas très grave, hein, de toute façon, c'est une très belle épître. Donc, là... on va voir que la résurrection, il insiste sur une résurrection plus collective. C'est intéressant parce que la première 2 Corinthiens, c'était quand même voyez, c'est vraiment tout à fait moi dans ma relation à Dieu, finalement. Hein. Dans cette façon de vivre, oui, comme le Christ, avec le Christ, ma vie en ce monde, oui. On pouvait y voir des notions éthiques, peut-être, dans le regard sur l'autre, l'aide à l'autre, d'accord. Mais quand même, c'est moi et Dieu, Dieu et moi, quand même un peu. Le salut, ça se joue comme ça. Dans Éphésiens, c'est beaucoup plus, déjà un peu beaucoup plus collectif, la vision d'une humanité nouvelle, qui soit en même temps chaque être humain transformé, mais aussi nous tous ensemble, comme corps du Christ, on va le voir. Donc vous étiez morts par vos offenses et vos péchés. Donc là, oui, on parle plus de péché, si vous voulez, de péché, nos fautes, finalement. Hein. Alors que le premier, c'était le péché par manque d'évolution, manque d'être, manque de création, manque de genèse. On était encore trop pétri d'argile et pas encore assez spirituel. Là, avant, c'était un manque d'évolution. Là, ça peut être des fautes. Voilà. Dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de la colère comme les autres. Donc là, il y a l'idée que vivre, la chair n'est pas mauvaise, mais c'est vivre selon la chair. Donc c'est suivre la programmation animale, suivre le simple instant, instinct, désir de l'instant, suivre notre égoïsme, machin, machin. Puisqu'il y a double réalité dans l'être, à la fois visible et invisible, si on vit selon le visible, ben c'est pas bon. Si on vit selon le spirituel, c'est plutôt mieux. Quoi. Voilà, ça vient transformer. Mais alors ça, c'est très concret, en fait, hein, cette dualité. Par exemple, je sais pas, le plaisir, par exemple, de bien manger, d'être... C'est excellent... Si c'est fait dans la louange, si c'est fait dans le partage, si c'est fait dans l'égoïsme et qu'on vit que le but de son existence c'est simplement de se remplir le ventre, c'est un plus un problème. Donc vous voyez, c'est le même acte en soi de manger, ou pour le sexe par exemple. Bon, c'est quelque chose qui est très positif dans la Bible au point de vue de faire la vie, mais même pour le plaisir. Par contre, si c'est fait d'une manière déréglée, si on vit pour ça, ça devient un vrai problème, évidemment, hein, pour nous-mêmes, pour ceux qui nous entourent. Donc, c'est une question de finalité, de vivre selon la chair ou de vivre selon l'esprit. C'est la finalité qui change, même si l'acte en soi peut être le même, finalement. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et alors là, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a co-ressuscités avec Christ et puis aussi tous avec les autres, en fait. Hein, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, vous voyez, là, c'est quand même plus collectif. Il nous a ressuscités par grâce, rendus vivants. Alors, vous voyez, c'est la résurrection, on en parle au passé, là, en fait. C'est au passé. Il nous a rendus vivants en Christ, avec Christ. C'est déjà fait. Hein. Et le passé, c'est au verset 6, c'est au passé. C'est passé,
hein. Il insiste sur la grâce là-dedans. Dans ce passage, la grâce joue un grand rôle.
La grâce joue un grand rôle, là, voilà, tout à fait. Et donc, les œuvres, c'est pas... Ça, vous voyez, c'est que dans la théologie, peut-être dans une certaine théologie juive, on compte les mitzvot, on compte les bonnes œuvres. Si on a assez de bons points, plus que de mauvais points, à ce moment-là, on peut avoir le solde est positif, on peut avoir le ticket d'entrée pour la vie future. C'est peut-être une certaine théologie, une certaine compréhension du salut, finalement, hein, du passage dans la vie future. Hein. Et dans le christianisme, c'est beaucoup cette façon de voir comptable qui a pu prévaloir. Et donc, par rapport à ça, Paul est ici en polémique par rapport à ça. Il dit non, ça ne marche pas comme ça. Les œuvres qu'on peut faire, les œuvres aussi bien. Alors, dans le dernier passage que j'ai mis, chapitre 3, c'est aussi bien de l'ordre de la connaissance, aussi bien de l'ordre de la théologie, de la foi. Ça aussi, c'est un fruit, finalement, de la grâce de Dieu en nous. Mais les œuvres aussi, c'est une finalité, c'est une vocation, une possibilité qui nous est offerte, adressée. C'est plus un fruit du salut en nous que la cause du salut. La question, ce n'est pas une question d'amnistie, c'est une question d'être rendu vivant, d'être vivifié, d'être... C'est là qu'on retrouve l'idée de création qui est dans 2 Corinthiens, mais qu'on trouve souvent ailleurs. Il s'agit de se laisser... Voilà, donc la grâce, là, c'est... On comprend que la grâce, vous voyez, ce n'est pas une histoire d'effacer l'ardoise, c'est une histoire de recevoir un supplément d'être, recevoir une vivification, recevoir une capacité à bien agir, capacité à faire de belles choses, voilà, capacité à comprendre, à voir, à saisir, à avoir la connaissance qu'on voit plus loin, voilà. C'est une fortification par son esprit de l'homme intérieur. C'est une recevoir une force, recevoir une joie, voilà. Alors ensuite, bon, là on entre dans une autre. Pour Paul, vous avez d'autres choses à remarquer, je ne sais pas. Avant de voir un petit peu la première lettre de Jean, incroyable première lettre, j'allais dire. Alors, la première lettre de Jean, elle est connue pour cette phrase qui est peut-être le cœur même de l'évangile, si vous voulez, mais qu'on ne trouve pratiquement que dans cette première lettre de Jean. C'est, je l'ai souligné là, 1 Jean 4, 16, vous voyez, c'est à peu près au milieu de la page, Dieu est amour. C'est fulgurant, si vous voulez. On le trouve nulle part ailleurs, en fait, dans le Nouveau Testament, pratiquement. Si ce n'est que quand on a lu ça, ça éclaire, ça peut servir vraiment de clé de lecture des évangiles et des lettres de Paul d'une manière assez forte. C'est un peu la théologie aussi de l'apôtre Paul quand il dit, par exemple dans Romains 8, l'amour de Dieu manifesté en Christ. C'est la compréhension donc du ministère du Christ, de ce qu'il a pu apporter, c'est de manifester cet amour de Dieu en puissance, j'allais dire pas simplement en connaissance, mais en puissance, comme transformant notre être. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est d'une ouverture, si vous voulez, qui est très proche de ce que dirait Jésus-Christ quand il loue, par exemple, la foi du centurion romain. Un centurion qui, au point de vue théologique, est quand même extrêmement limite, au point de vue acte aussi, mais qui, à ce moment-là, a une attitude pour son petit serviteur qu'il veut sauver, une attitude vraiment d'amour au sens de volonté de bien pour l'autre. Et donc Dieu demeure en lui, encore une fois, le demeurer, c'est demeurer éternellement, c'est-à-dire que voilà, ça annonce. Et puis un passage qui est assez fort aussi, c'est quand il dit... cet amour, c'est pas nous qui avons aimé le premier, c'est lui qui a aimé le premier. Où est-ce que c'est ça?
C'est dans l'évangile de Jean?
Non, c'est ici, je pense, quand même, il y a marqué...
Que nous avons aimé Dieu, non, ce qu'il nous a aimé...
Le premier, c'est où ça? C'est dans ce passage, je recherche, voyons voir... voilà, si c'est le 4-10, vous voyez, un peu plus haut. Cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que lui, il nous a aimés. Et il a envoyé son fils, alors comme victime expiatoire, j'ai mis Kippour entre parenthèses derrière, parce que ça, ce ilasmos, si vous voulez, de grec qui est ici, ça a été traduit traditionnellement par la victime expiatoire pour nos péchés. Et là, on tombe dans une logique de la satisfaction, finalement. Hein. Le salut en Christ est donné par Dieu, au sens où il vient donc effacer l'ardoise. Nous sommes horriblement pécheurs, en fait. Et donc, on a une dette terrible auprès de Dieu. Notre balance, pour reprendre ce que combattait Paul derrière, on a un solde extrêmement négatif, parce que nous sommes... je parle pour moi, pas forcément pour vous, hein. Extrêmement pécheur, horriblement, c'est tout à fait dégoûtant, donc Dieu est prêt à vomir rien qu'en regardant notre être intérieur. Et donc comment faire, si vous voulez, parce que chaque jour on ajoute encore à ce solde négatif, donc on peine à solder le compte, quoi.
C'est impossible.
Impossible. Donc en plus on est nombreux, si vous voulez. Donc il faudrait que Dieu lui-même, parce qu'il n'y a que lui qui est infini, paye la note de souffrance et de mort pour solder le compte. Alors, si vous voulez, ça c'est une théologie qu'on peut appuyer sur des passages bibliques, en particulier sur un passage comme ça, pourquoi pas. Bien que c'est très discutable. Alors c'est Anselme de Canterbury, au Moyen-Âge, vers l'an 1000, je pense, grosso modo, qui a vraiment valorisé ça, sur la base du droit féodal. Le droit féodal est comme ça.
L'offense.
Il faut payer la note. Et c'est resté longtemps dans le droit français. On en a parlé beaucoup au moment de la double peine pour les étrangers. Un étranger qui a une carte de séjour, par exemple, ou qui n'en a pas, ou même qu'il en a une, mettons, il commettait un crime en France. On commence déjà par lui faire payer la note avec 10 ans de prison, par exemple. Et puis ensuite, on le jette à la poubelle dans son pays d'origine. Donc il y a une double peine, au sens où il faut absolument... Parce qu'on se dit, mettre en prison les criminels, c'est pour prémunir la société de crimes possibles, ou pour le rééduquer. Mais là, non. Il fallait qu'il paye sa note d'abord, en souffrant bien dans nos prisons, et puis ensuite, on règle le problème en le jettant en dehors du pays. Donc vous voyez, il y avait l'idée qu'il fallait qu'il paye, en fait.
C'est-à-dire qu'il y a... Dans le droit féodal, c'est par rapport à la seigneurie. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose non pas contre un quidam, mais contre le seigneur. Donc ça veut dire qu'il y a un surcroît à payer.
Il y a un surcroît à payer. Et l'idée qu'il faille payer nos offenses par de la souffrance, ça, on peut le comprendre dans une logique humaine, mais dans la logique de Dieu, où Dieu, de toute façon, a horreur de la souffrance et de ses enfants, c'est pas possible. Si vous voulez, ça n'a pas de sens. Et puis, à mon avis, que... Même l'idée qu'un innocent puisse payer la note pour un coupable, ça c'est très choquant, et ça projette une idée de la justice qui est quand même absolument redoutable. D'abord, ça voudrait dire qu'on ne peut pas pardonner sans donner des coups de fouet à l'autre, hein, ce qui rapporte à des types de justice qui sont quand même extrêmement cruels et pas forcément très positives. Mais en plus, il y a une idée, si vous voulez, que ce soit même un innocent puisse payer la note pour un coupable, c'est absolument épouvantable. C'est-à-dire qu'on a deux enfants, il y en a un qui fait une bêtise. Bon, ben, on peut fouetter le plus jeune pour payer la note de l'aîné, c'est impensable. Et à mon avis, ce n'est pas la théologie du tout de ce genre de texte. Si on regarde hilasmos, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que dans le grec classique, ça pouvait être, si vous voulez, des rites... des cérémonies de réconciliation avec les dieux, mais on était assez volontiers, je pense, dans certains rites religieux, faut pas non plus les caricaturer, si vous voulez, mais dans l'idée qu'on fait une offrande à la divinité ou aux ancêtres, et puis du coup on achète leur bénédiction, on attire leur attention pour qu'ils donnent leur bénédiction. C'était quand même un peu dans un marchandage avec la divinité. Bon, ça peut être souvent plus complexe que ça quand même, mais on est un peu dans cette idée du marchandage. C'était pas forcément comme ça, à mon avis, non plus pour toutes les religions gréco-romaines de l'époque. À mon avis, dans l'Ancien Testament, c'est un peu plus compliqué que ça. Il peut y avoir des traces de ça dans certaines... L'Ancien Testament est assez complexe, si vous voulez. Il pouvait y avoir dans certaines théologies, certaines compréhensions de la religion, en particulier autour des prêtres du temple, un peu cette notion dans la religion juive. Mais pas tant que ça. Il y a beaucoup d'autres passages, en particulier les psaumes, qui annonce un pardon de Dieu par grâce et en disant, de toute façon, on prend dans le psaume 130 ou d'autres, de toute façon, s'il n'y avait pas la grâce de Dieu, on ne pourrait pas jamais être pardonné ou avoir le salut, mais c'est complètement par grâce que Dieu pardonne, et puis c'est tout. Et l'idée que ce n'est pas du tout la question de sacrifice ou de choses à payer, de toute façon Dieu a tout, comment est-ce que des sacrifices de bœuf pourraient lui faire plaisir? S'il avait envie de manger un bœuf, eh ben, il se servirait lui-même, il ne faut pas rigoler. Donc là, c'est toute une théologie des prophètes en particulier qui vont lutter contre cette théologie parfois un peu trop commerçante avec Dieu ou avec les dieux du temple et des sacrifices et des machins, pour une théologie de la grâce, une théologie plus spirituelle, en disant, mais ce sont tout ce que Dieu attend, c'est simplement un cœur qui aime, c'est pas des sacrifices de machin. C'est ce que dit en particulier l'histoire d'Abraham, si vous ne l'écoutez pas dans les textes les plus anciens de la Bible, où Dieu bénit dès Genèse 12 Abraham sans rien, il pardonne les péchés d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et des autres, sans qu'il y ait de sacrifice humain pour acheter le pardon de Dieu. Donc, sur l'idée de la satisfaction de Dieu en Christ, parce que le Christ aurait bien souffert et bien mort pour payer la note, c'est quelque chose, à mon avis, qui est une régression terrible par rapport à toute une théologie des psaumes, des prophètes, et bien entendu, une régression immense par rapport à l'amour de Dieu manifesté en Christ, et puis de quantité de passages du Nouveau Testament. Alors le hilasmos, quand on regarde dans l'Ancien Testament, parce que c'est un mot qui est utilisé dans la traduction des Septante de l'Ancien Testament, et c'est souvent ainsi qu'on peut avoir un peu le sens des concepts, si vous voulez. D'un concept du Nouveau Testament, on peut chercher dans les Septante, c'est-à-dire la tradition grecque, qui date de moins 300 à peu près de l'Ancien Testament, chercher le sens. Quand on regarde Hilasmos, par exemple, eh bien, ça se traduit par Kippour, en fait. Et le Kippour, c'est le jour donc, du grand pardon, c'est le jour du pardon. Alors ça peut évoquer le rite du Kippour au temple avec le sacrifice des béliers. Donc on peut y voir là... l'idée d'un sacrifice pour calmer Dieu. Il y avait deux béliers, un qui était sacrifié à Dieu, l'autre qui était sacrifié aux démons, dans un sens à Azazel. On est limite en dehors d'une théologie monothéiste, vous voyez, avec cette histoire de deux moutons, un qui est sacrifié pour Dieu, le Dieu créateur, l'autre pour le démon. On est dans une théologie un peu dualiste, où il y a le Dieu et le diable, et où les deux moutons, les deux béliers, sont sacrifiés à la fois un au diable, un à Dieu, pour se concilier tout le monde. On est limite, vous voyez ce que je veux dire, du monothéisme dans ce cas-là. Et puis on est déjà dans l'idée, un petit... Bon, le Kippour a été beaucoup spiritualisé dans la religion juive, bien entendu, même à l'époque de Jésus et encore plus après, avec une fête qui est devenue une fête très joyeuse, qui célèbre le pardon de Dieu. Et sachant bien que le pardon de Dieu est donné par grâce, avec une invitation aussi... Eh bien, à aller se réconcilier avec le frère qu'on a blessé, une obligation au frère de pardonner, donc pour dire, voilà, hein, on est dans ce processus de réconciliation, pas simplement d'une grâce à bon marché, où on dit, bon là, je suis pardonné, tant pis pour tous les coups vaches que j'ai fait à mes frères, sœurs, collègues, je suis pardonné, allons-y gaiement. Non, l'idée d'un travail sur soi, d'un travail avec l'autre, pour les autres, et de ce pardon de Dieu qui est donné de toute façon par grâce. Mais même on peut voir ça plus loin, par exemple ce hilasmos, on le voit dans le psaume 130 au verset 4, et on dit « le pardon se trouve auprès de toi, et c'est pour ça qu'on peut aller vers Dieu ». Donc là, c'est pas Kippour, c'est vraiment c'est de cela pardonner, c'est vraiment l'idée du pardon de Dieu. Et donc, le hilasmos, il a donné son fils comme hilasmos, à mon avis, c'est vraiment donné comme pardon sur notre existence, comme signe de réconciliation, comme réconciliation, non pas de Dieu avec nous, mais de nous avec Dieu. Il y a marqué, l'amour de Dieu est premier, et il donne son fils pour réconciliation, pour que nous soyons réconciliés et que nos péchés disparaissent, finalement. Hein. Voilà. Alors, ce qui est compliqué dans ce texte, on va devoir s'arrêter malheureusement, mais si vous voulez, je l'ai mis en pointillé au verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, on est complètement dans l'erreur et dans le mensonge. Et puis à la fin, au verset 18, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. » Donc c'est contradictoire. Donc si vous voulez, quand c'est comme ça, c'est qu'en fait on s'exprime en forme de type. Nous sommes à la fois, par certaines dimensions de notre être, pécheurs, et ce serait dommage de se cacher les yeux sur cette réalité de notre être, par un manque, par des fautes, par choix, par mauvais choix de notre existence, par égoïsme, à tout un tas de choses horribles. Mais aussi, nous avons déjà en nous-mêmes un être qui est né de Dieu et qui est pur et qui est en dehors du péché. Et cette réalité nous traverse tous. Et donc on est à la fois quelqu'un qui est capable d'aimer et à la fois un quelqu'un qui ne voit pas son frère et qui le laisse crever à côté, dans une indifférence totale. On est dans ces deux réalités et elles nous traversent tous, si vous voulez. Et donc il y a un effort là. Il dit, voilà, bien aimé, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc il y a un appel à se laisser créer, à laisser vivre en nous, ce Christ en nous, finalement, cet enfant de Dieu en nous. Alors c'est saint Augustin qui a donné un commentaire de ce passage, très connu, aime et fais ce que tu veux. C'est quand même incroyable, une religion qui dit ça, si vous voulez. Aime et fais ce que tu veux, et puis ensuite saint Augustin dit... En fait, pour savoir vraiment ce que c'est que l'amour, ben en fait, il faut voir ce que c'est que le Christ. Hein, il faut se laisser créer par cet amour de Dieu manifesté en Christ. Parce qu'il n'y a que cette réalité-là, cette dynamique-là, cet esprit-là qui peut mettre dans notre cœur, dans notre être, vraiment la racine de l'amour, en fait. Et une fois que cette racine en nous peut s'exprimer, à ce moment-là, elle exprime des actes de créativité inouïe, c'est-à-dire en dehors de ce qui était prévu, en dehors de ce qui est dicté, en dehors de ce qui peut sembler logique et évident auparavant.
Merci.
Bon, alors la prochaine fois, j'essaierai de chercher des passages donc plutôt dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, avec la manière dont le Christ... voit l'éternité en nous. Il y aura bien sûr dans Jean 11 et puis peut-être aussi dans Jean 14, mais j'irai chercher aussi dans les autres évangiles que l'évangile selon Jean pour essayer de voir un petit peu différentes optiques, hein. voilà. Donc bon retour et puis à mercredi, j'espère.